Bonjour et bienvenue à Regards Croisés avec Fulgence Blas et
Arlette Farah.
Bonjour Arlette.
Oui, c'est la dernière aujourd'hui.
Ouais, laisse-moi te poser la question d'abord. J'ai hâte de te demander comment tu te sens pour la dernière émission de l'année.
Je suis mimi, on va dire.
Mi-fig, mi-raisin.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est notre dernière émission, comme le dit Arlette, de l'année.
Oui,
il faut bien préciser.
De l'année, parce qu'on vous revient en janvier. Et puis là, bah... Moi, je vais parler. On va parler un petit peu. On va entendre une entrevue qu'a fait Denis Martin Chabot sur la solitude, chronique LGBTQ+, et sur la solitude.
Vous attendez bien parce que c'est la période. Hein, où
c'est
il y a
un peu la période
sont...
aussi. Donc, on va en parler, mais après, on va finir en beauté aussi avec. Des lectures que tu nous proposes,
vous
propose.
Oui, qu'on se propose. On va lire à deux un texte du docteur Joe Dispenza, qui est un docteur en neurosciences, bien sûr. Mais bien avant ça, en première demi-heure de l'émission, j'ai le recueil de Asmes Kafka, un poète, dramaturge, homme de théâtre, réalisateur aussi, qui était ici, qui vit en France maintenant. Les rites du temps, j'ai choisi quelques poèmes de ce recueil-là.
D'accord.
J'espère que ça va, mais bien avant ça, on va en musique tout de suite.
Oui, avec Nicolas Jules et Nicolas Moreau qui nous chantent Le Fossoyeur.
Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant. Je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre fossoyeur. Les vivants croient que j'ai pas de remords à gagner mon pain sur le dos des morts. Mais ça me tracasse d'ailleurs, je les enterre à contre-cœur. Je suis un pauvre fossoyeur. Et plus je lâche la bride à mon émoi, et plus les copains s'amusent de moi. Ils me disent mon vieux par moment. T'as une figure d'enterrement. Je suis un pauvre fossoyeur. J'ai beau me dire que rien n'est éternel, je peux pas trouver ça tout naturel. Et jamais je ne parviens à prendre la mort comme elle vient. Je suis un pauvre fossoyeur. La terre, on voit le bon Dieu. Dis-lui le mal que m'a coûté la dernière pelletée. Je suis un pauvre fossoyeur.
À toi, Fulgence.
Oui, merci. Merci. Oui, c'est à moi maintenant. Je
trouve que
dire.
Ça allait bien comme ça, là, la présentation. Oh, oui. C'est comme la fin de la musique.
Oui, oui. C'est notre dernière émission de l'année. On peut se permettre de tout aujourd'hui, Arlette. Une lecture à deux plus tard dans cette émission. C'est du jamais fait, ça. Ouais. Si on prend goût, on va revenir de temps en temps.
On va y revenir.
Voilà. Alors, j'ai choisi deux poèmes de ce livre, de ce recueil de Kafka. Les rites du temps, poésie, le résumé rapidement, c'est la beauté du recueil, les rites du temps résident ainsi dans cette rythmique métissée par la musicalité kabyle. Il est d'origine kabyle.
D'accord.
langue maternelle du poète, langue ancestrale que l'occupation a essayé d'abolir, de faire disparaître. C'est surtout ce timbre singulier qui distingue les poèmes de l'auteur, cette couleur et cette essence immatérielle qui traverse l'amour, les douleurs, les ruptures tenant ainsi en éveil cette pure image de ce de feu autour de laquelle danse éternelle l'âme kabyle. Asmès ne cesse d'être le porteur d'une âme qui marche vers la maison des choses. Et comme le dit si bien ses vers, les mots se réinventent à travers le langage. La complainte de cet amour inachevé, souvenir sans mémoire, comme une épave rejetée par l'océan, comme les mots rejetés par la rythmique d'un poème. Daniel Dussault, qui est poète, écrivain aussi, qui a voilà, signé ce joli recueil-là. Là, je pars tout de suite avec le poème que j'ai choisi, l'un des poèmes que j'ai choisi.
Bien sûr.
Dehors, le monde cavalcade, court derrière l'insaisissable rêve, court derrière la stupidité humaine, érige les murs de la solitude, irrigue les monuments de l'imbécilité, emprisonne la vie, empoisonne la liberté. Dans sa maison, la musique s'arrête et la regarde. Les notes se taisent. Un silence, un soupir. Le violon reprend sa chanson langoureuse. L'horloge, adossée des années au mur, éreintée par l'usure de cette vie, ne sait plus compter ses jours. Les aiguilles bâclent le temps. Le temps efface les vies. L'horloge danse, pleure, chante et casse le silence. Avec cette tic-tac, redonnant le souffle jour, au temps, tel un poisson sortant de l'eau, cherchant une bouffée de vie dans l'air des pêcheurs et dans l'air des marins. Elle ne voit rien. Personne ne la voit. Presque. Elle le regarde péniblement à travers ses verres de lunettes épais, à travers sa vie, cherchant la vie, cherchant le sourire, cherchant les siens, comme on cherche, malaisément, une aiguille dans l'obscurité. Elle répète les mêmes gestes, les mêmes mots, rumine la tristesse. Devant les jappements de sa solitude, elle se tait à jamais, seule, dans son monde de vieux, comme si elle n'avait jamais enfanté, comme si elle n'avait jamais existé, comme si elle n'était pas née. Asmès, alias Kafka.
Wow.
Oui, c'est un petit recueil avec de ces beaux textes là-dedans. Et c'est...
Qu'est-ce qu'il a voulu retracer là-dedans?
Très bonne question. Si tu veux, on peut l'avoir un jour. Il vit en France, maintenant on peut l'avoir un jour.
Non, mais toi, parce que tu l'as lu, donc
Oui.
comment tu penses?
Le mot solitude ressort là-dedans. Une personne qui vivait seule dans sa maison, qui les tic-tac de son horloge, le silence. C'est ça, ça joint un peu ce que la solitude dont tu parles dans l'enregistrement de
Denis Martin, de Denis Martin qui va parler.
Tu vois, ce lien, on n'a même pas communiqué concernant ça. J'ai choisi comme ça par hasard ce poème d'ailleurs que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un de ces...
Pendant que tu lisais, ça me faisait penser à la chanson de Jacques Brel, Les Vieux.
Ah oui. Aussi. Ah oui, je connais cette chanson-là aussi.
À venir dessus.
Alors, si j'ai encore du temps, je peux prendre.
Bien sûr.
Oui, mais un deuxième poème.
Un deuxième poème.
Oui, j'ai encore du temps. Oui, un deuxième poème. Un autre que j'ai choisi comme ça aussi par hasard. La nuit lui confie ses gémissements en dessinant le visage de l'absente sur les illusions de son insomnie. La guitare, adossée au mur, lui sourit. Il la caresse. Elle se laisse dans les bonheurs de ses doigts. En lui vomissant les notes languides, de l'amertume, de la laideur, la complainte d'un cœur inassouvi. Il cherche son image dans les bûches qui offrent leurs âmes au feu de l'oubli, dans le temps qui se consume. Il accorde sa guitare aux harmonies aphasiques de ténèbres, au silence morbide de sa solitude, pour faire danser ses déboires. la complainte de cet amour inachevé. Souvenir sans mémoire, comme une épave, rejeté par les océans comme les mots, rejeté par la rythmique d'un poème. Les remords, cette foutaise vidée de ses larmes, ce vent de l'insulte attise un soleil infécond qui brûle le sang dans le cœur. Il caresse les murmures de la nuit, en essayant de la rattacher à son isolement, bien sûr, ligoter l'obscurité à son univers, lier ses souvenirs rares aux instants qui l'éloignent de sa bien-aimée. La joie des bestioles nocturnes le berce tendrement dans sa mélancolie, dans sa solitude. Il tend l'oreille pour écouter le bruit silencieux de sa voix. Son souffle éteint. Il écarquille les yeux pour voler à la journée lumineuse le peu d'image que l'on garde d'elle. Il confie au scintillement des étoiles qui bercent ses peurs et ses attentes son grand chagrin qui le rejette sur le rivage des sentiments. La nuit s'effrite devant ses espoirs, comme le feu qui devient escabrille après toutes ses rébellions. Des étoiles ne lui restent que la poussière de ses rêves. Je cherche ton visage dans les flammes qui dansent devant moi, dans le bois qui calcine mon cœur. De tout cet amour évaporé, embrasé, il ne me reste que la cendre de tes souvenirs, un passé qui s'étoile à une longue nuit sans manteau. Tu emportes tout avec toi, cette nuit. Tu ne me laisses que la laideur, les fleurs du pince-lit qui voyagent avec la tristesse du vent, accompagnent la solitude de la nature en gémissement de toi, de toute une créature. Il ne me reste que l'esquisse d'une femme sur le brouillon de mon passé, de toute une vie. Il ne me reste que la cendre froide couvée par des braises éteintes, les yeux d'un passé qui ne savent pas te pleurer. Asmès.
Je n'ai qu'un mot à dire, c'est musique.
Encore quand je te dis.
Alors, on vient d'entendre les Marathoniennes, tout, toi et le soleil. Et maintenant, donc, Denis Martin Chabot ne peut pas être avec nous ce soir. Par contre, il avait un sujet pour sa chronique de LGBTQIA. Et donc, à un invité, il parlait de la fin d'année, parce que la fin d'année est assez particulière en 2020. Pas de réunion de famille, pas de party, juste les bulles familiales existantes. Et pour les personnes isolées, ça va être doublement difficile. Donc, il a fait une entrevue avec Julien Rougerie, qui s'occupe du programme Pour que vieillir soit gay à la Fondation Émergence. On l'écoute.
Les réalités de nos aînés, en fait, elles sont multiples, hein, bien sûr, mais c'est des gens qui souvent portent beaucoup de bagages par rapport à leur parcours de vie, puisqu'ils ont connu une époque où l'homosexualité, la transidentité, c'était des crimes, il n'y avait pas de protection contre les discriminations, c'était une maladie mentale, etc. Donc, ils ont vraiment dû vivre dans une société où il fallait se cacher pour survivre. Et puis ça laisse des traces en vieillissant, parce qu'en vieillissant, on peut être plus vulnérable. Et aussi, c'est une population qui est plus susceptible d'être isolée socialement à cause de la rupture avec la famille, l'absence de conjoints, de conjointes, d'enfants pour certaines d'entre elles. Donc, il y a vraiment un gros facteur d'isolement social, plus le fait d'avoir un bagage un peu difficile par rapport à l'acceptation d'eux-mêmes, etc. C'est une population qui est donc assez vulnérable aussi sur le plan de la santé et la santé mentale.
On peut quand même aussi parler de santé mentale. Il y a aussi, au niveau de la santé, il y a des choses très importantes à dire. On sait que c'est 6 nouvelles infections sur 10 pour le VIH. Ça concerne toujours et encore des hommes gays. Est-ce que ça aussi, ça a des répercussions sur le vieillissement de nos populations?
Oui, l'enjeu du VIH, c'est un autre enjeu, parce que pour les survivants des années noires de l'épidémie, donc un gros bagage traumatisant par rapport au milieu de la santé, etc., plus le fait d'avoir perdu énormément d'amis, donc il y a un facteur psychologique. Et puis sur le plan plus santé, effectivement, les aînés, hein, qu'ils soient LGBT ou non, sont assez bien représentés dans les nouveaux diagnostics positifs au VIH, parce que c'est des populations qui sont souvent moins ciblées par les politiques de prévention. Donc il y a un peu comme sur notre sujet, il y a le fait d'être LGBT, mais aussi le fait d'être aîné, c'est un facteur supplémentaire de stigmatisation. Et des fois, c'est des populations invisibles, donc on cherche moins à rejoindre dans les politiques de prévention, par exemple.
D'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous êtes au courant, mais une des choses dont j'ai entendu parler, c'est aussi l'utilisation des drogues, des narcotiques, notamment du crystal meth chez les hommes, qui serait en hausse chez les personnes âgées pour un peu combattre cet isolement, cette solitude. Et de cette façon-là, ben, ils peuvent attirer des partenaires sexuels aussi, ou des partenaires par l'entremise. Est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié jusqu'à maintenant, ou c'est juste quelque chose dont on entend parler, mais qu'on n'a pas de chiffres là-dessus?
Alors, je ne saurais pas répondre précisément à la question. Est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié? Oui, certainement. Nous, on a une approche plus globale sur les aînés LGBT. Ce qu'on sait au point de vue des drogues, c'est que les aînés LGBT ont plus de problématiques de santé mentale et plus de problématiques de dépendance. Donc, vis-à-vis des dépendances en général, c'est renseigné que les aînés LGBT, parce qu'ils sont isolés et parce qu'ils ont eu un parcours de vie souvent parsemé d'expériences de rejet, de traumatisme, etc., ils ont une proportion plus élevée à utiliser des substances, alcool, drogue, etc.
Alors, entrons dans ce qui nous se passe maintenant. Nous sommes à quelques jours des festivités de fin d'année. Habituellement, c'est aussi un temps d'année qui est difficile. Comment est-ce que ça se vit, notamment chez les personnes vieillissantes LGBT, de LGBTQIA?
On disait que les aînés qui sont LGBTQ2+, c'est vrai qu'ils sont plus prônes à l'isolement social, et les fêtes de fin d'année, c'est un petit peu la bête noire, entre guillemets, pour les personnes isolées, parce que c'est un moment où le reste de la société tend à se réunir. Bon, ça va être moins le cas cette année, mais il y a toujours cette ambiance globale où les personnes les plus isolées vont se sentir encore plus seules, encore plus exclues. Et c'est le cas de pas mal de personnes dans les communautés LGBTQ+, notamment les populations vieillissantes. Et puis c'est aussi des fêtes où il y a une connotation très familiale. Et les aînés LGBT, malheureusement, ils sont souvent en rupture avec leur cellule familiale. Soit la famille les a rejetés à cause de leur homosexualité ou de leur transidentité, soit eux-mêmes ont dû s'éloigner de leur famille parce que la famille n'est pas complètement acceptante de qui ils sont. C'est un des facteurs d'ailleurs qui explique l'isolement chez les aînés LGBTQ+. C'est entre autres la déconnexion avec leur cellule familiale.
Et on en ajoute une autre couche cette année avec la pandémie de la COVID-19. Déjà que ça n'a pas dû être facile pendant l'année, j'imagine que ça ne sera pas plus facile aux fêtes, là.
C'est ça. Et puis le Covid, il a frappé particulièrement les populations les plus vulnérables à la base, que ce soit les plus précaires, les plus âgés ou les plus isolés. Et pour nous, avec le programme Pour que Vire soit guerre, habituellement, on travaille beaucoup dans les résidences, etc., pour briser un peu le tabou. Puisqu'en 2020, à Montréal, la quasi-totalité des LGBT sont dans le placard. C'est quand même un triste constat à faire. Et avec la pandémie et le confinement qu'on a suivi, pour les LGBT, ils sont un peu doublement enfermés, parce qu'ils sont enfermés dans la résidence où ils sont pour des raisons sanitaires, mais ils sont enfermés dans un milieu où ils ne peuvent pas être qui ils sont. Ils ne peuvent pas exprimer leur parcours de vie, leur conjoint, leur conjointe, etc. Donc, pour les LGBT, là, on est un peu face à un phénomène de double confinement, à la fois dans le milieu à proprement dit, qui constitue un peu un placard psychologique dans lequel ils sont rarement à l'aise d'en sortir. Donc, pour les LGBT, il y a un peu une double peine, là, le confinement, certes, mais le placard en plus.
Et vous, du côté de la Fondation Émergence et de votre programme pour que Vieillir soit gay, cette année, avec le confinement, le fait qu'on ne peut plus vraiment aller en résidence pour des raisons sanitaires, comment ça a joué dans votre œuvre auprès de votre travail auprès des personnes âgées?
Alors, ça a un impact considérable, évidemment. On s'est adapté assez vite dans le sens où on continue nos formations en ligne, ce qui marche assez bien, mais c'est sûr qu'on rejoint moins les gens qu'avant le mois de mars. Mais on reste disponible vraiment pour tous les milieux aînés, tous les gens qui offrent des services aux aînés, pour faire de la sensibilisation et des formations sur les réalités et les enjeux de nos aînés LGBTQ+.
Bon, je sais qu'on s'était bien dit que ce n'était pas votre rôle de donner des conseils, mais est-ce qu'on peut en donner quelques-uns? Est-ce qu'on peut suggérer aux gens, peut-être vous connaissez quelqu'un qui est aîné, qui est dans la communauté, qui s'ennuie en résidence ou seul à la maison, on peut les appeler, ce serait une bonne idée, ça?
Ah oui, bien sûr, c'est le moment de démontrer sa solidarité, qu'elle soit intra-communautaire et aussi intergénérationnelle, d'aller vers nos aînés, prendre des nouvelles, voir comment on peut rompre l'isolement s'il y a lieu. Et puis pour ceux et celles qui sont de la diversité sexuelle et de genre, c'est bien de s'assurer que est-ce que leurs milieux sont inclusifs ou non, est-ce qu'ils ne sont pas enfermés dans des milieux où ils ne sont pas libres d'être qui ils sont. Et ça peut valoir le coup aussi d'interpeller la direction, les intervenants sur place, pour leur dire, hey, vous, qu'est-ce que vous faites pour l'inclusion de votre milieu aux 10% des aînés qui sont LGBT, hein? C'est quand même une personne aînée sur 10. Autant chez les personnes âgées que chez les plus jeunes, évidemment. Et pourtant, ils sont complètement invisibles dans le milieu de la santé, services sociaux, les résidences, etc.
C'est très bien pour moi, merci beaucoup. Feliz Navidad.
A Merry Christmas.
Stéphanie, Feliz Navidad, Navidad. Pour ceux qui comprennent l'espagnol, c'est passé joyeux Noël ou bien quoi, je sais pas.
Et on se retrouve dans la prochaine demi-heure avec des lectures.
Simultanément, toi et moi, allez, on va lire le même texte du même auteur.
Alors, soyez, restez avec nous.
Ouais.
Vous écoutez Regards croisés.
Oui, on a la deuxième partie, oui, la de, dernière, cette de cette alors, émission, la redis, dernière partie de l'année.
Redis-nous, Fulgence, parce que ce texte-là, c'est toi qui l'as choisi. Qui est-ce? Pourquoi? Et après,
Docteur Joe Dispenza, qui est un chiropraticien spécialisé en neurosciences, un docteur en neurosciences. Ouais. C'est un texte qu'il a écrit fin 2019 dans un cadre de pardon. Pardonner le passé pour créer l'avenir.
Et c'est pas le meilleur moment. Ça, c'est le meilleur moment. La avant-veille de Noël.
De Noël.
Donc c'est le moment ou jamais de commencer avec lui. Donc tu vas commencer un texte.
Oui, je vais commencer.
J'en lirai une autre partie
donc
après.
À la fin de l'année 2020 et à l'aube de la nouvelle décennie, lui, il avait. Oui. Voilà. On va. Ouais. Parlons du pardon.
Alors parlons du pardon.
Oui, c'est parti. Après tu vas embarquer. Hein.
Oui, promis.
Ne me laisse pas seul dans la neige. Nous avons tous connu des situations dans notre vie où nous avons été choqués, trahis, traumatisés, manipulés ou abusés d'une manière ou d'une autre.
C'est aussi vrai.
Oui, nous sommes tous d'accord pour dire que, de par leur gravité émotionnelle, ces situations s'impriment très fortement dans notre biologie.
Au combien, je peux te couper pendant que
voilà,
pendant
oui,
tes
oui,
interfaces.
C'est vrai, ouais,
au combien,
c'est ça.
Au combien, parce que ça vient nous marquer et
ça
nous amène à des réactions qui sont pas toujours nous, mais qui sont
c'est
juste
ça.
La réaction que cette
ouais, en fait,
cet événement-là a amené.
Ouais, plus la réaction émotionnelle à une personne, à un problème ou à une expérience est forte, plus nous sommes affectés intérieurement. C'est tellement vrai.
C'est le moment où on est en crise.
C'est ça. Ah ouais. Et lorsque ce genre de bouleversement se produit, nos systèmes d'alarme interne s'activent. Et parce que l'événement est synonyme de menace ou de souffrance, le cerveau fige le cadre et prend une photo instantanée de cet événement externe. Tu vois l'image?
Je vois l'image. Ça me rappelle un peu les moutons.
Oui.
Tu sais, les moutons, on me le racontait souvent, ça. Un mouton, quand il est perdu, il a les glandes surrénales qui, tac, il ne peut plus bouger. Et ça fait à peu près ça. Quand on est dans un mouvement, on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir.
Ouais.
Est-ce que je suis bonne, là?
Oh ouais, je te regarde, je t'écoute.
Allez,
continue. Alors, nous pourrions alors dire que le cerveau a capturé un instantané dans le temps. Un instantané qui n'existe en fait plus. Et que, en faisant cela, l'événement devient neurologiquement inscrit dans notre cerveau. Une autre façon de dire cela est que l'événement a laissé une empreinte physique dans notre biologie. Nous appelons cela une mémoire à long terme.
Oui.
Ouais. Donc l'effet secondaire de ce choc sur notre organisme, c'est que, en raison de la force de l'émotion, les substances chimiques du stress qui sont nécessaires à notre survie sont déclenchées. C'est profond, hein?
Oui, c'est profond.
Et comme ces substances chimiques qui sont le produit des émotions sont extrêmement désagréables, nous faisons tout ce que nous pouvons pour les éviter.
Et bien évidemment.
Ouais.
Et puis là-dedans, il y a aussi notre cher ami l'ego.
Oui. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en essayant de les éviter, nous continuons à revivre et à revisiter le souvenir de l'événement encore et encore.
À le ressasser.
Voilà.
Ah, c'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas ici à Regards croisés.
Voilà, et nous restons coincés dans une boucle de pensée et de ressenti en lien avec ces émotions que nous ne voulons pas ressentir. Ouais, tellement bien écrit.
Oui.
On ne peut pas écrire mieux que... C'est ici que commence le processus de conditionnement.
Alors on t'écoute.
Ouais, en faisant continuellement l'expérience conjointe d'une pensée et d'un ressenti, d'une image et d'une émotion, d'un stimulus et d'une réponse. Dans ce processus répétitif, non seulement la mémoire s'enregistre dans le cerveau, mais en plus l'émotion ou le ressenti s'imprime dans le corps. C'est ainsi que le corps devient tributaire d'instructions chimiques et, par conséquent, le corps est conditionné inconsciemment et devient la pensée de cette émotion.
Alors parlons clair, c'est-à-dire que quand on est dans le, quand, on va parler clair, quand on est dans le drame ou quand on est dans la peur ou quand on est figé dans quelque chose, ou la colère ou la jalousie ou peu importe, on peut arriver à se donner à soi-même des maladies physiques. C'est quand même absolument fascinant. Enfin, ouais. C'est pas fascinant d'arriver à se rendre malade, c'est fascinant ce qu'on est capable d'arriver à se faire tout seul à
oui,
soi-même.
À soi-même, oui. Donc le traumatisme vit alors aussi bien dans le corps que dans le cerveau. Parce que le corps est objectif, il ne connaît pas la différence entre l'expérience réelle qui a donné naissance à l'émotion et la mémoire dans le cerveau qui déclenche cette émotion-là. Mmh. Donc si les pensées sont le langage du cerveau et les sensations celui du corps, et si la façon dont nous pensons et dont nous nous ressentons constitue ce que nous sommes, alors il est logique que ce que nous sommes est intimement lié et conditionné émotionnellement au passé.
Si je traduis bien ce que je viens de t'entendre dire, ça veut dire que si j'imagine quelque chose, ce quelque chose va me faire du mal alors que ce n'est que mon imagination qui l'a compris de cette façon-là. Et que ce que je comprends ou ce que chacun d'entre nous comprend n'est que la formule de... C'est nous qui le comprenons de cette manière, c'est pas toujours ce qui a été dit ou qui a été fait.
Et c'est nous qui le créons, c'est nous qui l'interprétons de cette manière-là, oui.
Voilà.
Donc, en se remémorant sans cesse le même souvenir, nous activons et connectons les mêmes circuits pour créer des réseaux neuronaux qui deviennent alors automatiques. Oui, et ce qui fait qu'il nous est plus facile de nous souvenir de ce passé douloureux.
Bah oui.
Et de plus, nous aurons tendance à avoir les mêmes ressentis parce que le corps fabrique les mêmes substances chimiques et les mêmes hormones chaque jour.
Surtout quand on y revient et oui. Revient encore.
Oui, non, la résultante des émotions de peur, de colère, d'hostilité, de frustration, de douleur, de souffrance, ainsi de suite. De haine, oui.
Qui amène parce qu'elle déclenche, aux guerres aussi.
C'est ça, elle déclenche des hormones de stress et le système de survie que le cerveau dit au cœur de se préparer à l'événement au cas où il se reproduirait.
Imagine ouais. Qu'on est capable de faire par la simple force de notre esprit.
Oui.
Donc là, il vous a donné le moment ascendant où on est en crise et qu'on se la crée tout seul.
Oui.
Et maintenant, je vais lire le passage qu'on m'a donné Fulgence, qui est sur le moment descendant où
oui.
On peut alors, se calmer et
je vais lui poser la question,
ça.
Elle va aller, ouais. Donc là, maintenant, devinez ce qui se passe. Devinez quelle est la somme totale de ce processus
voilà.
Anthropique. La suite, c'est Arlette.
La suite au prochain numéro, j'ai envie de dire. Non, on va partir à un moment en musique et puis tout de suite après ça, on reviendra. Je vous lirai autre chose et puis on en discutera ensemble
voilà.
Pour finir cette émission. D'accord ? Alors à tout de suite.
Chargé de fruits légers, aux lèvres parées de mille fleurs, pariée, glorieuse dans les bras du soleil, heureuse d'un oiseau familier, ravie d'une goutte de pluie, plus belle que le ciel du matin, fidèle, je parle d'un jardin, je rêve, je parle d'un jardin, je rêve. Et je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. Et je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. Ah, 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 ah. Chargé de fruits légers, aux lèvres parées de mille fleurs. Dans les bras du soleil, heureuse d'un oiseau familier, ravie d'une goutte de pluie, plus belle que le ciel du matin, fidèle, je parle d'un jardin, je rêve, je parle d'un jardin, je rêve, et je ne suis pas seul. Non.
je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. Et je ne suis pas seul. Chargé de fruits légers, aux lèvres parées de mille fleurs, pariée, glorieuse dans les bras du soleil, heureuse d'un oiseau familier, ravie d'une goutte de pluie, plus belle que le ciel du matin, fidèle, je parle d'un jardin, je rêve, je parle d'un jardin.
Alors, on vient d'entendre les minstrels qui nous chantaient « Je ne suis pas seul », texte de Paul Éluard. Voilà, donc maintenant, on va parler de l'autre moment, de l'autre côté de la pente, on va dire. Donc, on est resté sur un moment où on prend tout ce qui nous est dit au premier degré en ayant les sentiments de colère, de frustration, de peur, de choses comme ça, d'accord ? Ça, c'est effectif. Maintenant, il y a le moment où on essaye, dit-il, de se regarder, de se reconditionner et d'être dans le moment présent. Est-ce que aujourd'hui quelque chose de méchant nous a été fait ? Pas spécialement, c'est dans notre imagination. Donc, quand c'est dans notre imaginaire, on essaye de se remettre dans le moment présent. C'est une victoire et chaque victoire s'ajoute à la précédente, dit-il. Donc, ce n'est pas moi qui suis aussi bonne que ça, hein, c'est lui qui l'écrit. Dans un sens, en vous libérant des pensées et des émotions du passé et en revenant au moment présent, vous commencez à rompre le lien énergétique qui vous lie à cette personne, voilà, à ce problème ou à cette expérience douloureuse. Lorsque vous le faites un certain nombre de fois, eh bien, vous n'êtes plus régi par les émotions négatives parce que vous avez détourné votre attention de ces émotions. Et lorsque vous ne ressentez plus ces émotions, vous cessez naturellement d'y penser.
Oui.
Et savez-vous quoi ? C'est cela le pardon.
Oui, c'est
nous
ça.
Nous pourrions dire que pardonner, c'est aller vers un niveau de conscience plus élevé où nous ne sommes plus définis par les problèmes de notre passé. Maintenant, du haut de cette montagne que vous avez demandé à votre corps de gravir, vous pouvez regarder en arrière le paysage ainsi que le paysage mental que vous avez traversé et ce faisant, voir la valeur de la leçon apprise à partir d'un autre niveau de conscience. Il est donc juste de dire que le vrai pardon consiste à supprimer la charge émotionnelle ainsi que le lien énergétique de notre passé douloureux, quel qu'il soit. Ceci dit, ce n'est pas toujours facile, mais bon, il faut savoir essayer. Ça, c'est moi qui fais un petit aparté.
En pratique, c'est pas... Oui, mais c'est faisable. C'est faisable,
mais
Arlette.
Ça peut être faisable.
C'est faisable.
Il le dit, Fulgence, alors c'est que c'est vrai.
C'est faisable.
C'est faisable. On te croit sur
sinon,
parole.
Sinon, tu ne vas jamais pardonner.
Je pardonne.
Voilà, d'accord.
Ce avec quoi vous restez alors est un souvenir. Et un souvenir sans charge émotionnelle, eh bien, vous savez comment ça s'appelle ? La sagesse. Et c'est le nom que l'on donne au jeu dans la réalité tridimensionnelle. Maintenant, vous êtes prêt à créer un nouvel avenir. Alors finit-il, parce que c'est tout un livre à lire, évidemment, ce qu'on vous a lu, c'est juste une partie de ce livre.
Ouais.
Donc, pour une bonne année, voici pour une bonne année la recette. Pardonnez le passé et utilisez toute cette énergie vitale libérée pour créer un nouvel avenir pour vous-même, votre famille, l'humanité, sans oublier la Terre-mère. C'est le moment de donner et de pardonner.
Ne vous demandez pas comment je fais. Bravo. Ne vous demandez pas comment. Tout le monde est capable d'appliquer.
On part en musique parce que le terme était tellement beau. Excuse-moi, j'ai envie de mettre un petit peu de musique sur cette finalité, puis on revient en parler après.
Voilà, on revient en parler après.
L'amour à distance, un vol de quel oiseau déjà? J'ai pas envie de prendre les absences, moi qui ne migre pas. Je suis pas trop aller-retour, pas souvenir d'avoir voté pour. C'est fragile comme un pied sur le lac. Au début du printemps, paraît que l'on n'a seulement qu'une vie chaque. Et mon piano perd ses dents. J'entends parfois tes je t'aime au fond de la radio AM. Choisis la nuit où tu t'en iras. C'est pas loin d'une chanson de gestes. Voici l'amour et c'est à qui l'aura. Ça m'arrive encore de passer mon petit change dans la machine à toutou pour une poupée qui te ressemble. Je la boutonne en jaloux. Moi je connais un génie qui trouve ce long tout seul dans sa lampe. Et dis-moi, dis-moi si tu restes. Choisis la nuit où tu t'en iras.
D'entendre Patrice Michaud qui nous chantait à qui l'aura. Mais on revient quand même sur le système du pardon, Fulgence.
Oui.
D'abord, ce texte est tiré de quoi ? De quel livre ?
Ça ne vient pas d'un livre. C'est un texte qu'il a écrit comme ça en fin d'année pour s'adresser aux gens. C'est un grand conférencier, docteur en neurosciences, qu'il a écrit comme ça. Il n'a pas fait un livre spécialement pour ça, mais il a sorti ça comme ça pour dire aux gens. C'est le moment, c'est la fin de l'année, pardonner, enlever les salles, les sales choses dans le cœur et puis aller de l'avant. Ça dit que pardonner le passé pour créer l'avenir, ça dit tout. Hein, le titre même, ça dit. C'est pas un livre qu'il a sorti, mais c'est un écrit qu'il a sorti comme ça. Un texte pour s'adresser aux gens qui le suivent ou bien les gens qui. Voilà.
Alors après la fin de lecture que j'avais faite, donc tu voulais dire quelque chose là-dessus ?
Oui, c'est pas, comment on le dit ?
Profite-en pour demander pardon.
C'est facile de le dire, mais oui, mais pour
moins facile de le faire.
Oui, pas facile de le faire pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, quand on est blessé, c'est pas évident, hein, Arlette.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde,
au
oui.
Au moment
oui.
où on vit la blessure.
Oui, que ce soit.
C'est difficile. C'est lorsqu'on y pense un petit peu après que l'on peut revenir dessus. Ou alors les gens fortement élevés mentalement, intérieurement.
Avec le recul, on arrive. Capables. Oui, avec le temps, on dit. Le temps soigne les plaies, c'est vrai aussi. Hein. Avec le recul, on se rend compte, on arrive à relativiser certaines choses, certaines blessures, certaines souffrances, certaines, même la perte d'un proche, d'une proche, une ça séparation, un décès. Voilà. Et avec le temps, on se dit, ouais, la vie continue. Difficile. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, moi je me dis jamais, pourquoi moi ? Pourquoi ça doit arriver aux autres ? Pourquoi pas moi ? C'est le cours de la vie. La vie n'est pas un fleuve tranquille, comme on le dit souvent.
Non.
Ouais.
C'est pour ça que tous les jours de la vie, quand on se dit à demain, c'est à demain,
oui.
Si Dieu le veut.
C'est vrai, si Dieu le veut, on se retrouve ici demain en studio, bien on ne se retrouve pas.
Ouais. Demain, on ne se retrouve pas, voilà. Parce que c'est les vacances de Noël. Tu le sais, ça.
Oui, c'est vrai, donc, on ne se retrouve pas, c'est une façon de parler. Quoi. Ça dit, quand on te dit, on se voit demain, bon, ben, est-ce que tu vas revoir vraiment la personne?
Voilà. Mais c'est surtout dans l'intention, c'est surtout ce texte. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en ai retiré de ce texte, c'est surtout de voir que quand on ressent quelque chose qui nous blesse, essayons le plus possible, quand on peut le faire, d'arrêter de ressasser encore toujours la même chose, parce que ça ne sert à rien. Mmh. Et puis de voir avec un petit peu de recul, parce qu'après tout... Ce qu'on a entendu, j'ai envie de dire, c'est aussi un des quatre accords Toltec, livre que j'adore et sur lequel il y a beaucoup à travailler. Et celui qui me revient le plus, c'est d'essayer de ne pas prendre personnel, ce qui est la chose la plus difficile pour moult et moult personnes, en tout cas. Alors,
et souvent dans la vie, il faut arriver à relativiser les choses aussi. Il ne faut pas toujours prendre les choses au premier degré. Pour essayer de... Ouais, le mot sagesse que tu as prononcé d'ailleurs.
Oui, mais ça c'était dans le texte. Hein.
Voilà.
C'est pas sorti que... de moi-même non, présentement.
Non, mais tu l'as lu.
Mais je l'ai lu.
C'est ce qui fait que j'ai dit tu l'as sorti. La sagesse, c'est là on parle de sagesse. Voilà. On arrive à...
Voilà. Alors,
on va en musique ?
On est content. Bah oui, on va partir
la
en
dernière
musique.
Pièce musicale.
Juste le nom de la personne qui a écrit. Le nom.
Docteur Joe Dispenza.
Voilà, j'aime bien te le faire dire.
Oh là là là.
Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans les mains. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël aux mille bougies quand chantent vers le ciel les cloches de la nuit. Vive le vent, vive le vent d'hiver qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village, C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Vive le vent, vive le vent, vive le vent l'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Bonne année grand-mère, bonne année grand-mère.
Alors c'était Vive le vent par Henri Salvador, et même si les fêtes cette année sont un peu plus calmes que les autres années, eh bien, on vous souhaite de belles fêtes de Noël et du oui. jour de l'an, n'est-ce pas, Fulgence ?
Oui, merci à tous ceux qui nous ont suivis.
Merci à Denis Martin aussi d'avoir été là ce soir, en tout cas d'avoir fait cette entrevue
oui,
pour nous.
Oui, merci à tous nos auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette émission.
Nos auditeurs, oui.
Et puis, merci à Webster et puis à tous nos invités qui ont été avec nous durant tout ce parcours.
Oui, tout le temps. Et puis à cette lecture magnifique que nous avons fait ensemble. Donc déjà... c'était bien pour finir l'année. Merci beaucoup. Maurice Bolduc, on te souhaite de belles fêtes de Noël. Joyeux
Maurice,
Noël et bonne année.
Joyeuses fêtes à toi.
Et on vous retrouve en début d'année, bien sûr,
2021.
Avec grand plaisir et pour le vôtre aussi. Pour le nôtre, mais aussi pour le vôtre.
Ouais. Bonne fête, joyeuse fête à toi.
Merci, joyeuse fête à toi, Fulgence.
Bon et vol puis, et bon retour. Tu nous reviens en bonne santé.
Oui, je reviens en bonne santé. Merci beaucoup à tous.
Merci
au revoir.
Allez, ciao.